Écho d'économie, Georges Camoudova.
Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver. L'équipe, c'est Berry Luchaka qui nous apportera les nouvelles économiques du pays.
Alors, nous ferons une escale ce soir à Lubumbashi où se tient la réunion des responsables douaniers de la SADC, Communauté de développement des pays d'Afrique australe. Nous en parlons dans deux minutes avec Colin Jouman Moussompo. Et beaucoup d'irrégularités, Georges, dans le secteur minier congolais. C'est la principale conclusion d'un rapport du CEDAL adopté le week-end dernier. Nous en parlons avec Marie-Chantal Lumba qui a suivi cette enquête sénatoriale dans deux.
Et dans le même registre, comment arrêter la sortie frauduleuse de certains produits miniers? Nous invitons Colette Mikila, ministre des Mines et Hydrocarbures au Sud Kivu, où d'ailleurs 8 tonnes de cassitérite sont en détention par les services antifraude. C'est l'invité à suivre dans 10 minutes.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. Echo@radiookapitoinet.
Un tour du pays qui commence d'abord par Kinshasa, enfin. Kinshasa emboîte le pas aux autres provinces en présentant son projet de budget 2010.
Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a présenté aujourd'hui son projet de budget qui s'élève à 183 milliards de francs congolais, soit plus de 200 millions de dollars. Il s'en dégage ainsi un accroissement de 30% par rapport au budget 2009. Et il faut noter qu'au cours des débats, les députés ont fait remarquer que les réalisations du budget en cours ont largement dépassé les prévisions et en même temps, certains projets n'ont même pas connu un début d'exécution.
Et le maniement a adopté le sien, le budget, le samedi.
Alors, maintenant, on n'attend plus que l'édit qui devrait confirmer ce budget de 29 milliards, soit environ 30 millions de dollars. C'est le plus petit budget du pays, mais jugé réaliste sur place au maniement vu les ressources de la province.
Et au Kasaï oriental, le gouvernement provincial se propose de créer un site touristique à Benalwabeya, localité située à 33 km au sud de Mbujimayi.
C'était hier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du tourisme, le gouvernement de la province, les membres de son gouvernement et les opérateurs économiques ont visité la localité de Benalwabeya. Ils se sont intéressés à savoir comment modifier et adapter les anciennes installations de la société minière des Bills qui avait légué ses installations et équipements à la province du Kasaï-Oriental à sa fermeture. Les opérateurs économiques et le ministre provincial de la Culture doivent se concerter pour établir un devis et envisager ensemble la mise en valeur de ce site.
L'embouchure est toujours la crise économique et la mise en place tardive de la direction provinciale des recettes, deux causes sur la faiblesse des recettes.
Et c'était au premier semestre. Seul un cinquième des recettes attendues ont été mobilisées. Suite à ce faible taux, les espoirs de la province ne sont basés que sur les fonds de la rétrocession du gouvernement central, affirme le gouverneur Louis Kassanji.
La nouvelle économique au bout du fil.
Au bout du fil, depuis Lubumbashi, on retrouve Colin Jouma Moussompo à Lubumbashi, où se tient depuis ce matin la réunion des experts douaniers des pays membres de la SADC. En fait, c'est une suite du sommet qu'il y a eu dernièrement à Kinshasa. Et vous suivez tout cet événement, Colin Jouma Moussompo. Bonsoir.
Bonsoir, Georges Kamichova.
Alors, pour commencer, pourquoi le choix de Lubumbashi pour abriter ces assises?
Oui, docteur Salamao, le secrétaire exécutif de la SADC présent à ces assises, a déclaré que la ville de Lubumbashi a été choisie parce qu'elle est le site pilote des transits communautaires pour les postes douaniers de Johannesburg en Afrique du Sud, à Kazangula au Botswana, en passant par Kasumbalesa en République démocratique du Congo.
Et on pourrait même se demander sur le bénéfice à tirer dans toutes ces opérations pour la RDC.
L'administrateur délégué général de l'OFIDA, Deo Rubiza, a cité notamment l'amélioration des infrastructures douanières, la mise en œuvre d'une politique de la libre circulation des marchandises et de personnes entre pays membres et la création d'un partenariat fructueux entre la douane et les opérateurs économiques. Les experts douaniers des pays membres de la SADC auront également à mettre sur pied un plan stratégique sur la coopération douanière ainsi qu'un plan de renforcement des capacités des douaniers.
Et donc, vous nous parliez même de Kasumbalesa. Là, on peut dire que Kasumbalesa peut prendre beaucoup d'importance.
C'est sûr, car il est prévu à la fin de ces assises, dans 3 jours, une visite au poste frontalier de Kasumbalesa qui constitue pour la République démocratique du Congo un corridor stratégique en matière d'études du transit communautaire. Car d'après Deo Rubiza, Kasumbalesa, c'est le point de départ et d'arrivée des restes des corridors.
Merci beaucoup. beaucoup, Colin Djouma-Moussampo. Vous continuez à suivre pour nous cette réunion des experts douaniers de la SADC. Merci pour toutes ces infos depuis Lubumbashi, où l'on écoute Radio Okapi sur 95,8 FM.
Merci aussi, Georges Kamjova.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Lutchaka.
Eh bien, on vous retrouve, Berry. C'est la toute première conférence des présidents des parlements des pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs qui a commencé aujourd'hui.
Cette conférence s'est ouverte aujourd'hui, vous l'avez dit, Georges, à Bujumbura. Nous sommes là au Burundi. L'objectif est, selon son secrétaire exécutif Gabriel Touyi, de relancer la CPGL, principalement pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Les questions liées à l'éducation et la recherche, la communication et la réhabilitation des routes, ainsi que les problèmes énergétiques dont font face les pays membres sont les grands axes prioritaires de cette relance.
Et Ati Yari Wafa Bank acquiert deux nouvelles filiales.
C'est ce que la banque marocaine annonce dans un communiqué. Ati Yari Wafa Bank entre dans le crédit du Congo et l'Union Gabonaise des banques UGB. Le groupe bancaire privé marocain ainsi signe sa présence en Afrique subsaharienne et en RDC. Elle était aussi proposée l'année dernière pour racheter le quart de la banque commerciale du Congo, le quart détenu par le groupe Fortis.
Merci Berry pour ces infos à travers l'Afrique. École économie continue sur Radio Okapi et tout de suite sa seconde partie.
Éco d'économie, le dossier.
Le dossier du jour, voilà qui amène Marie à Chantal Lumba dans ce studio. Marie Chantal, bonsoir.
Bonsoir, Jean.
Alors, vous avez suivi le débat sur un rapport au Sénat. Le rapport concerne en fait les secteurs miniers et il mentionne beaucoup d'irrégularités dans ces secteurs. Alors, qu'est-ce que les sénateurs reprochent au secteur minier?
En fait, par cette enquête parlementaire, le Sénat reproche à ce secteur un désordre indescriptible. D'abord, les services administratifs n'ont pas suffisamment des moyens pour gérer correctement ce domaine, surtout en infrastructure, et encore ce secteur est rongé par d'autres irrégularités, que ce soit dans l'attribution des carrés miniers, l'exploitation, l'exportation en qualité et en quantité. Il est difficile et très complexe de suivre le mouvement de ces minerais dans le pays à l'étranger. Une situation qui laisse croire une exportation illégale des minerais bruts et aussi une confusion dans le recouvrement des impôts, taxes et redevances.
Et donc il n'y a pas de statistiques sur tout ça?
Quelques chiffres qui malheureusement ne représentent pas la réalité sur le terrain, parce que l'enquête a commencé à Kinshasa, dans divers ministères et services qui s'occupent des mines.
Mais depuis une année, hein?
Oui, cette enquête a duré plus d'une année, et maintenant, arriver sur le terrain, c'est autre chose, surtout en ce qui concerne l'identification des entreprises minières, des exploitants, les statistiques de production, d'exportation et de commercialisation. À ce sujet, la commission souligne qu'il y a un manque à gagner de l'État qui s'élèverait à des centaines de millions de dollars chaque année.
Des centaines de millions, mais qui crée le flou?
Le rapport est clair à ce sujet. En gros, c'est le gouvernement, tant au niveau national que provincial. Les textes ne sont pas respectés, même le code minier n'est pas respecté. Il y a un dysfonctionnement entre les services, par exemple. Le gouvernement a confié la perception des droits superficiels à la DGRAD, et plutôt, ça devait revenir au CAMI. Oui, c'est en violation du code minier. Il y a pire, ce sont des montants, donc des fonds, des taxes et impôts qui sont payés par les exploitants et, ou entreprises, mais qui ne se retrouvent pas dans les caisses de l'État. Encore, il y a des carrés miniers qui sont attribués sans le respect des normes. Eh bien, il faut dire que ce rapport souligne que des ministres et autres hauts responsables de l'État interfèrent dans la gestion de ce secteur.
Voilà. Après tout ça, il ne suffit pas seulement de dénoncer, mais comment rendre ces secteurs transparents? Que vont faire alors les sénateurs? Sont-ils capables de peser pour changer les choses?
En fait, il y a des recommandations qui ont été adoptées par le Sénat, des recommandations allant dans le sens de la bonne gouvernance dans ce secteur, à des sanctions à l'endroit des responsables de ce chaos, à l'harmonisation du cadre réglementaire minier. Mais Georges, l'organe législatif a deux fonctions que nous connaissons bien, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Donc les sénateurs peuvent proposer des lois pour améliorer la gestion de ce secteur, par exemple avec une proposition de révision du code minier, et puis aussi par son action de contrôle de l'action du gouvernement. Ils peuvent faire pression, et à ta question de savoir si les sénateurs peuvent changer quelque chose, il y a une réalité sur terrain, Georges, c'est que la plupart des recommandations du Parlement sont faiblement respectées par le gouvernement, et les parlementaires s'en plaignent, et qui sait que peut-être cette fois-ci, ces recommandations seront respectées, peut-être. Parce que cette enquête fait suite à l'une des recommandations du Sénat lors de l'examen du budget 2008, celle de rechercher des recettes additionnelles en vue de booster les prochains budgets de l'État.
Voilà, on espère. Vous avez dit vous-même, peut-être. Merci beaucoup, Marie-Chantal Lumba, et à la prochaine.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Colette Mikila. Colette Mikila est ministre provinciale des mines et hydrocarbures au sud de Kivu. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Il y a plus d'un mois, les services d'antifraude au sud Kivu ont intercepté une cargaison contenant de minerais. C'était une tentative de fraude de 8,5 tonnes de minerais qui a été déjouée. Et ça, c'est une bonne action, comme on vient de parler d'ailleurs avec Marie-Chantal Lumba, du désordre dans les secteurs miniers. Alors, madame Colette Mikila, quels font vos services pour essayer de lutter contre la fraude des produits miniers au sud Kivu?
En fait, nous avons d'abord différents services qui sont installés dans les différents comptoirs. Et puis, nous avons ensuite développé une stratégie de collaboration avec les différents services aussi qui luttent contre la fraude, tels que la DNA et l'antifraude. Et avec ça, nous sommes arrivés quand même à avoir une cohésion dans ce que nous faisons. Et ce qui a fait que aujourd'hui, nous parlons de saisie comme le bruit de cafétéria de saisie. Sinon, c'est parce qu'au niveau de cette cohésion-là, nous avons développé l'esprit de lutter vraiment contre la corruption et de lutter contre les antivaleurs.
Oui, mais alors, qu'est-ce qui adviendra pour cette cargaison?
En fait, c'est une faute pareille. Dans le code minier, c'est une violation de l'article 304 et 305. Et oui, l'article prévoit une amende transactionnelle qui va entre 2 000 et 20 000 $ si on veut libérer la cargaison. Mais si nous voulons aussi punir davantage afin de montrer un exemple à tout le monde, nous pouvons transférer la cargaison au parquet. Et de là, on peut faire une vente aux enchères au profit du trésor public.
La fraude dans les secteurs miniers au sud Kivu, on a même dit que ça causait un manque à gagner énorme au niveau des recettes de l'État. Est-ce qu'on peut avoir une estimation?
Une estimation, on ne saurait pas donner vraiment l'estimation pour le moment. La grande difficulté est à ce jour, c'est que ce rapport négatif aussi de l'ONG nous amène aussi à avoir beaucoup de problèmes.
Madame Colette Mikila, comment aujourd'hui vous pouvez condamner encore les ONG qui ont toujours dénoncé cette situation de fraude?
En fait, aujourd'hui, si je me permets de les condamner, c'est parce que dans le temps, les ONG ont fait des rapports négatifs en rapport avec les minéraux que les minéraux de la RDC contribuaient à la prolifération des groupes armés ici à l'Est qui ont financé la guerre à l'Est. Mais au moment où je vous parle, avec les opérations qu'il n'y a plus, il n'y a aucune place là où on peut encore trouver les RDC. Ce sont les exploitants artisanaux congolais qui font maintenant les minéraux. Au lieu de positiver maintenant cette richesse, on continue à le faire dans le cadre de la guerre. Et moi, je dis non, parce que je viens du terrain.
Donc, pour vous, les ONG ont poussé certaines entreprises minières internationales à quitter les Sud Kivu, et ça vous fait aussi un manque de respect.
Oui, c'est ça mon souci pour le moment, parce que ces ONG-là ont entraîné certaines entreprises à fermer et à ne pas vouloir acheter les minéraux qui proviennent de la RD Congo, alors que ces minéraux-là constituent aujourd'hui une ressource importante, d'abord pour les exploitants, en plus pour le pays et la province.
Comment, à votre niveau, vous pouvez faire revenir encore ces sociétés comme Patrice ou AMC?
Moi, je pense que nous sommes en train de fournir des gros efforts à notre niveau. Nous sommes en train de réfléchir sur ces processus et de certification. Nous sommes aussi en train de travailler sur la nature des emballages, sur la nature des produits et leur qualité et tout. Et nous pensons que dans la mesure du possible, nous allons quand même lutter contre les minéraux du sang, comme on le dit. Mais pour le moment, en tout cas, je n'appuie pas cette idée-là.
Colette Mikila, je rappelle que vous êtes ministre provinciale de Mines et Hydrocarbures au Sud Kivu. Merci de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'est avec cet entretien que nous terminons à Écho d'économie de ce soir. Pour ceux qui nous ont pris en cours, vous nous retrouvez bien sur www.radioocapi.net. Bonne soirée à tous et à demain.